Quand je dors, je ronfle pas, je crèche dedans. Je suis pas dingue, je suis vigilant. Quand je dors, je ronfle pas, je crèche dedans. Je suis pas dingue, je suis vigilant.
Et tout de suite, c'est qui ou quoi sur Radio Dio. Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Dio, une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Bienvenue à tous dans cette dernière émission de qui ou quoi, dernière émission de l'année. Ou pour laquelle, une émission un peu spéciale, pour laquelle je ne serai pas tout seul, je serai avec Tiphaine. Bonsoir Tiphaine.
Bonsoir Axel.
Tiphaine, à qui je vais laisser les rênes de l'émission, c'est elle qui va nous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Je ne vais pas vous dire de quel livre elle va vous parler, vous allez bien le découvrir tout le long de l'émission. Donc, dernière émission de cette saison de Qui ou Quoi. C'est parti, on va commencer un peu spécial. Contrairement à d'habitude où on commence tout de suite à parler d'un livre, on va commencer par un morceau pour nous mettre dans l'ambiance.
Camarade bourgeois, camarade fils à papa, la triomphe en bas de chez toi, le petit chèque en fin de mois, regarde-toi. Regarde-toi. Camarade bourgeois, camarade fils à papa, t'as vraiment pas l'air con quand tu sors le dimanche, ton prix complet, veston et ta chemise en blanc. Regarde-toi. Regarde-toi. Camarade bourgeois, camarade.
Deux essais politiques incontournables sur nos camarades de la bourgeoisie sont parus début 2019. Crépuscule de Juan Branco et Histoire de ta bêtise de François Bégaudeau. La parution de ces deux livres survient en plein mouvement des Gilets jaunes, que les auteurs soutiennent, et ils s'attaquent tous deux à son ennemi, l'élite bourgeoise, que Juan Branco appelle davantage oligarchie, comme le font d'ailleurs les sociologues, les Pinson-Charlot. Juan Branco et François Bégaudeau sont tous les deux rattachés à la pensée critique et radicale. Je précise d'abord que radical ne veut pas dire extrémiste, mais la pensée radicale est celle qui interroge les racines des problèmes et leurs causes. C'est en gros la pensée qui refuse de s'en tenir à la critique superficielle des choses et qui refuse le piège du discours moral. François Bégodeau, auteur d'Histoire de ta bêtise, est un écrivain de 48 ans. Il est aussi scénariste, acteur, metteur en scène, critique de cinéma. Il s'est fait connaître d'abord du grand public en 2008 avec Entre les murs, dans lequel il a joué. C'est un film qui a eu la Palme d'Or à Cannes, dont il a écrit aussi le scénario. Et il a écrit plusieurs romans, dont En guerre en 2016. Ses origines sont relativement populaires. Il a été chanteur d'un groupe punk, Zabriskie Point. Et son côté punk marque sa pensée et son écriture. Il utilise notamment beaucoup l'ironie et la dérision. Il a aussi été prof 10 ans dans un collège dit sensible, c'est d'ailleurs le sujet d'Entre les murs. Puis ensuite sont venus les succès littéraires, il a dû fréquenter le milieu bourgeois, la bourgeoisie dite culturelle, notamment les milieux de l'édition, les festivals littéraires, les médias, il a notamment une émission sur Canal+. Et il reconnaît avoir cru naïvement ce milieu imprégné par les valeurs de la gauche. En fait, il s'est surtout rendu compte qu'il était imprégné des valeurs de la bourgeoisie en le fréquentant. Il est devenu, pour reprendre une expression qu'il a lui-même employée dans une interview, une petite starlette de la culture. Et pour autant, il ne s'est pas laissé absorber par ce milieu. Il n'a pas adopté son système de valeurs. Dans ce livre, il fait lui-même son autocritique, où il explique qu'il a gardé l'éthos et l'habitus de la petite classe moyenne cultivée et désargentée. Dans Histoire de ta bêtise, Bégodeau décortique ce système de valeurs qui est pour lui une non-pensée, en fait. Cette bêtise, c'est un refus de pensée. Il parle de la bourgeoisie en général, mais peut-être avant tout de la bourgeoisie macronienne, celle qui se prétend ouverte, moderne, modérée, métropolitaine et qui se prétend éventuellement de gauche. Et ce livre consiste à la démasquer. C'est une super lecture. D'abord, ses analyses sont très justes, car on reconnaît à chaque page les comportements et les discours arrogants des bourgeois, comme ceux qu'on voit dans les médias par exemple. Ce livre, il aide à lutter contre la pensée dominante, celle de la minorité audible. Et Bégodeau, en plus, c'est un littéraire, il sait écrire, c'est un texte drôle, plein d'ironie, agréable à lire. Originalité, ce bouquin est écrit à la deuxième personne tout du long, en fait, il dit « tu », il s'adresse directement aux bourgeois. Juan Branco, quant à lui, a un parcours impressionnant. Il a des origines sociales favorisées, c'est le fils d'un producteur de cinéma. Il a fait les grandes écoles parisiennes, l'alsacienne, puis Sciences Po, puis l'ENS. Il a 5 masters, il est docteur en droit, il est aussi avocat, journaliste au Monde Diplo notamment, et écrivain, tout ça à 29 ans seulement. Il s'est retrouvé très jeune dans les sphères du pouvoir aussi. Il a été conseiller de cabinet de Philippe Etty en 2012, il a côtoyé des patrons de presse et des dirigeants d'En Marche. Et dans Crépuscule, il s'attaque à ce qu'il appelle le système oligarchique, donc à la haute bourgeoisie, donc des personnalités politiques, des milliardaires, des hommes et des femmes dans l'ombre de ces derniers. Il les a fréquentés dans les grandes écoles. Ils ont tenté de l'insérer dans les rouages du pouvoir par leur système de services et d'obligations réciproques. Et à partir de l'âge de 20 ans, il a refusé la compromission. Il a d'abord écrit un livre contre la loi Hadopi en 2010. En 2015, il est avocat du lanceur d'alerte Julian Assange. En 2017, il fait partie des Insoumis. Il est avocat de Mélenchon, puis il s'éloigne de ce parti, et depuis début 2019, c'est l'avocat de Maxime Nicole, une figure médiatisée des Gilets jaunes. Aujourd'hui, il refuse d'être rémunéré pour son activité d'avocat. Il a renoncé à de hauts revenus pour toucher le RSA, tout en continuant cette activité, parce qu'il considère que le droit, ça doit être un service public accessible à tous. Donc, il y a un point commun avec Bégodeau, c'est que Branco, il a su rompre avec le milieu bourgeois qu'il a fréquenté et qu'il en a fait un livre qui le critique radicalement. Alors, Crépuscule, c'est d'abord un PDF en accès libre, gratuit, très largement diffusé en décembre, partagé par environ 100 000 personnes. Le livre, lui, a été publié plus tardivement, le 21 mars 2019 seulement, parce que beaucoup de maisons d'édition ont refusé de le publier, et c'est finalement une petite maison d'édition, Au Diable Vauvert, qui a accepté. C'est un énorme succès de librairie. En moins d'une semaine, il a été en tête des ventes des essais et en rupture de stock. 50 000 exemplaires ont été vendus en un mois. Aujourd'hui, on est à 80 000. Il a dû être réimprimé 4 fois. Et pourtant, le PDF est resté librement et gratuitement accessible après mars. Et c'est seulement par le bouche à oreille et les réseaux sociaux qu'il s'est fait connaître. Parce qu'il y a eu un grand silence médiatique lors de sa sortie. Pourquoi ? Parce que ce livre est un livre dangereux pour le pouvoir. Cette lecture, pour de nombreuses personnes, a été la découverte brutale du degré de corruption de nos élites. Et Branco écrit d'ailleurs que « elles ne sont pas corrompues, elles sont la corruption ». Il décortique les processus d'accès au pouvoir dans son bouquin. Il fait ces processus d'accès au pouvoir sont faits de compromissions permanentes. Et une des thèses centrales de ce livre, c'est que Macron a été porté au pouvoir par les forces de l'argent qui lui ont permis de s'enrichir personnellement et de financer son parti En Marche, et que Macron est un pantin au service de ses oligarques, ce qui se note notamment dans ses politiques fiscales. Alors en plus du livre, ce sont de multiples vidéos qui ont fait connaître Juan Branco, notamment sur Facebook et sur Twitter, qui ont été énormément regardées. Moi, je conseillerais vivement l'interview du site Thinkerview. Ces deux livres, donc « Histoire de ta bêtise » et « Crépuscule », n'ont pas exactement le même ton ni le même objet, mais ils se complètent sur pas mal d'aspects. Donc moi, je vais partir davantage d'Histoire de ta bêtise pour l'illustrer par les faits exposés dans « Crépuscule ». Donc d'abord, Bégodeau montre que la bourgeoisie est la classe des possédants, et donc elle est régie par la peur d'être dépossédée. Et d'ailleurs, on a bien vu la réaction de la bourgeoisie face aux gilets jaunes, qui a été une réaction de peur, d'où la violence de la répression. Alors on s'est tout de suite empressé d'accuser les gilets jaunes de populisme, une notion qui a été sans cesse agitée dans les médias, qui sert d'épouvantail, mais qui fait que traduire en fait la peur que les bourgeois ont des classes populaires. Bégodeau montre bien que c'est une notion sans contenu. Parler de populisme, en effet, revient à dire que les extrêmes se rejoignent. Alors ça, c'est l'argumentaire classique des centristes depuis la Révolution française, mais c'est un non-sens historique. Bégodeau montre aussi que cette peur se traduit par la négation du conflit et de la violence sociale. En effet, reconnaître que la société est violente, ce serait remettre en question la domination et le pouvoir bourgeois. Maurice Merleau-Ponty écrivait « Nous ne reprochons pas au libéralisme d'être violent, nous lui reprochons de ne pas s'en apercevoir. Et puisqu'il nie cette violence, les bourgeois ne cessent de promouvoir des mots qui la camouflent. À droite, on va plutôt promouvoir des mots comme la nation, l'identité, la religion, la culture. Et à gauche, plutôt le vivre ensemble, le dialogue, la diversité, la mixité. Alors c'est de très jolies notions, mais qui servent avant tout à évacuer les antagonismes de classe. » Ces mots montrent que les bourgeois veulent la paix sociale tout en conservant les inégalités qui leur profitent. Et les inégalités continuent de se creuser d'une façon affolante et atteignent des proportions énormes. On peut juste citer un exemple, c'est Bernard Arnault, la première fortune de France, qui a doublé sa fortune en 4 ans. Sa fortune est passée de 40 à 80 milliards, et soit l'équivalent de 100 000 vies de travail. Dans le même temps, l'INSERM a récemment montré que 15 000 personnes meurent chaque année du chômage en France. Bégodeau rappelle que les partis de la gauche de gouvernement, comme le PS, ont définitivement renoncé à la lutte des classes et au combat contre le capital dans les années 80. C'est ce que montre aussi un petit livre, « L'illusion du bloc bourgeois » par Bruno Amable et Stefano Palombarini. Alors, les bourgeois dits de gauche, c'est-à-dire ce que Lordon appelle de droite complexée. Ils ont donc épousé la thèse de l'absence d'alternative au capitalisme. Il sera lié au fameux « There is no alternative » de Thatcher et Reagan. Ils ne défendent plus aujourd'hui que des luttes qu'on appelle sociétales. L'antiracisme, l'antisexisme, l'anti-homophobie. Hier, la lutte contre le sida, aujourd'hui davantage la cause des migrants. Alors évidemment, ces luttes sont décisives. Mais ici, les causes de ces problèmes issus du capitalisme sont totalement évacuées. Par exemple, quand la bourgeoisie de gauche défend l'antiracisme, elle ne dénonce pas les structures qui créent le racisme, donc elle défend l'antiracisme en quelque sorte pour se donner bonne conscience. Il est trop dangereux pour elle de s'attaquer aux causes, parce que la cause principale, justement, c'est la domination bourgeoise et la société inégalitaire que cette classe sociale perpétue. La peur de perdre son capital conduit la bourgeoisie à nier l'existence même des classes sociales qui est pourtant le socle de la société. Logiquement, la bourgeoisie refuse toute pensée sociologique. En effet, la sociologie est un sport de combat contre la pensée de la classe dominante, pour reprendre un titre d'un film de Pierre Carle sur Pierre Bourdieu. La bourgeoisie a une croyance en l'individu libre, autonome, au libre arbitre, et elle refuse absolument l'étiquette de bourgeois, elle n'aime pas être démasquée. Donc, les bourgeois refusent de reconnaître que leur situation est héritée. Ils pensent qu'ils méritent leur place. Cette croyance au mérite est centrale puisqu'elle légitime leur place de dominant. Bégodeau, lui, affirme que l'individu ne pense pas. Il montre bien qu'il ne mérite pas son sort. L'individu est agi par sa position sociale dans laquelle il est né, dans laquelle il évolue. Et il reconnaît lui-même que sa propre réussite personnelle vient du capital culturel que lui ont transmis ses propres parents, qui étaient d'abord des agriculteurs qui sont devenus instituteurs. Bégodeau assume lui-même le fait de n'avoir aucun mérite. On peut donner un chiffre qui illustre la reproduction sociale. On sait, par exemple, que les enfants des classes populaires représentent moins de 1% des élèves des grandes écoles. De son côté, Juan Branco montre parfaitement l'évidence de ces héritages sociaux. En particulier, il montre l'endogamie au sein de la grande bourgeoisie, c'est-à-dire le fait que les bourgeois se marient et fondent des familles entre eux. Il décrit la reproduction sociale et l'entre-soi qui règne dans les établissements scolaires pour élite, comme l'Alsacienne. Alors, l'Alsacienne, c'est un établissement privé parisien qui va de l'école maternelle au lycée. On y trouve les enfants des patrons du CAC 40 et de personnalités médiatiques et politiques, et elle coûte 2 700 € par an. Gabriel Attal y a été élève. C'est une caricature de l'arrogance de la haute bourgeoisie. Il est devenu le plus jeune ministre de la Ve République sous Macron à 23 ans. Il est secrétaire d'État à l'Éducation nationale, mais il a été propulsé à ce poste. Il n'a jamais exercé d'emploi, et s'il a obtenu son diplôme à Sciences Po, c'est par un arrangement avec la direction de l'école. La notion de mérite ici est donc très problématique. À Amiens, l'équivalent de l'Alsacienne, c'est le lycée jésuite La Providence, où était scolarisé Macron. Alors Macron a été présenté comme un génie sorti de nulle part, la presse l'a présenté comme ça, il s'est lui-même présenté comme ça, comme un candidat hors système qui aurait gravi les échelons sans l'aide de personne. Et il a même été présenté d'ailleurs comme un grand philosophe, alors qu'il n'a fait pour toute philosophie que la mise en page des notes de bas de page d'un livre de Paul Ricoeur. Il est intéressant de voir comment la croyance en son propre mérite pousse à affabuler. D'ailleurs, certains bourgeois propriétaires parisiens se plaignent de leurs problèmes de fric. Alors Macron, dans un discours devant des gilets jaunes, a tenu les propos suivants. Attention, c'est très touchant. Donc je cite « Je ne suis pas un héritier. Je suis né à Amiens, il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Ce que je le dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort. » Macron réduit donc l'héritage à la transmission d'un patrimoine économique comme s'il ne s'agissait que d'une question d'argent. Mais l'héritage socioculturel est beaucoup plus subtil et complexe que tout ça. D'ailleurs, Bégodeau le rappelle très bien. Macron surtout n'a rien d'un génie. Malgré un héritage socioculturel très favorisé, il a raté plusieurs fois des concours, comme ceux de l'ENS ou à l'ENA. Il a surtout bénéficié du soutien financier et social de plusieurs milliardaires. Et une fois au pouvoir, il continue de bénéficier des réseaux d'obligations réciproques que j'ai évoqués. Hélas, il n'est donc pas sûr qu'il soit si méritant que ça. Alors un exemple de réseau, c'est celui tissé autour de sa femme Brigitte Macron, qui enseigne au lycée Franklin, un établissement jésuite de Paris destiné aux élites. En son tissu, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Léa Salamé, compagne de Raphaël Glucksmann. Alors en dehors de l'Alsacienne et de la Providence, on peut parler des écoles de commerce, où la réussite des élèves bourgeois est davantage due à l'héritage qu'au mérite. Si on prend l'exemple de HEC, qui a été créée à la fin du XIXe siècle, cette école a été créée à destination des enfants de la bourgeoisie qui ne réussissaient pas leurs études. Dans ces écoles de commerce, les bourgeois payent plusieurs milliers d'euros par an pour une formation intellectuelle très limitée, mais les élèves ressortent avec le carnet de piston indispensable pour faire carrière, comme manager ou PDG par exemple.
Les ministres sont des faux culs et leur devise c'est dans ton cul. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, ou bien je t'envoie les CRS. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève.
Alors François Bégodeau, dans Histoire de ta bêtise, montre que le bourgeois est obligé de mentir, de dissimuler ce qu'il est et ce qu'il fait. Il lui est impossible d'avouer ses fins véritables et son essence véritable, écrivait Paul Nizan. Ainsi, la distinction, le style de la nouvelle bourgeoisie repose sur une façade qui est le cool. Alors, Bégodeau développe pas mal cet aspect. Alors, il ne parle pas de la bourgeoisie réactionnaire ici, mais plutôt de la bourgeoisie macronienne, libérale, celle qui se vit comme moderne. Les bourgeois libéraux d'aujourd'hui aiment se faire passer pour des gens cool, modérés, ouverts, et ce style sert à nier la violence du système défendu par les bourgeois. Il ne fait même que dédoubler cette violence, puisqu'il ajoute à la violence de classe le mensonge, un enrobage falsificateur. Et ce style vise à tromper, à distinguer ces bourgeois des bourgeois réactionnaires. En fait, les termes gauche et droite entretiennent le mirage de cette distinction. Bégodeau montre qu'au fond, dans la bourgeoisie, la distinction entre gauche et droite est illusoire. Le côté bourgeois prime largement là-dessus. Cette soi-disant modération est fausse. C'est une posture temporaire. À la moindre attaque, à la moindre contrariété, les bourgeois ne font plus dans la nuance et le côté pas cool reprend le dessus. On l'a très bien vu avec la révolte des Gilets jaunes qui a fait tomber des masques. On a bien vu des bourgeois dans les foulards rouges en janvier, notamment des bourgeois de gauche. On a vu la violence de la répression, on a vu une femme décédée à Marseille, des éborgnés, des mutilés, des arrestations abusives, la loi anti-casseurs, une justice de classe qui enferme des manifestants innocents. Et tout cela, ce n'est pas l'œuvre d'un gouvernement fasciste, mais c'est l'œuvre d'un gouvernement prétendument modéré, ouvert et centriste. On a vu aussi un racisme de classe débridé dans les médias, qui traitait les gilets jaunes de débiles, de méprisables, de beaufs, de factieux, etc. Sans parler du mépris de classe de Macron lui-même, exprimé dans ses petites phrases. On a vu Yves Calvi préconiser aussi de parquer les manifestants dans des stades, alors que Luc Ferry recommandait de leur tirer dessus à balles réelles. Et puis, de plus, le cool permet à la bourgeoisie de récupérer la pensée critique et de la retourner contre les dominés. Normalement, la pensée critique, c'est censé attaquer les dominants, les bourgeois. Mais dire « nous sommes les gentils cool », pas racistes, pas homophobes, pas antisémites, permet aux bourgeois de dire des prolos qu'ils sont les méchants pas cool, surtout quand ils se révoltent. Le cool, ça permet aussi à la bourgeoisie libérale de se poser en adversaire du fascisme et de l'extrême droite et d'agiter cet autre épouvantail de façon stratégique. Pourtant, ce sont les prétendus ennemis de l'extrême droite qui l'ont fait monter, c'est-à-dire la gauche et la droite de gouvernement, les macroniens. Les deux livres le montrent très bien. Alors pourquoi et comment l'ont-ils fait monter? D'abord, ils ont mis par anti-marxisme les questions identitaires et culturelles au centre des débats. Ils ont fabriqué cet ennemi électoral en répétant inlassablement l'injonction à voter, pour le moins pire, à faire barrage. On a très bien vu lors de la campagne pour les européennes où Macron a axé totalement cette campagne contre le Rassemblement national. Les médias qui ont fabriqué et soutenu Macron accordent une place très importante à Le Pen sur les plateaux télé. Et même quand ils n'invitent pas sur les plateaux, les thématiques identitaires structurent tout le discours médiatique. Surtout, ce sont les effets des politiques de cette bourgeoisie, de gauche comme de droite, qui sont responsables depuis les années 80 de la montée de l'abstention et du vote FN. Ces politiques sont des réformes libérales qui profitent à la haute bourgeoisie, et c'est un transfert d'argent massif de la population vers les plus riches, alors qui s'accentue en 1983, merci le Parti Socialiste, et qui s'accélère sous Balladur dans les années 90. Dans un premier temps, ça a été une remise en cause progressive de l'État-providence de l'après-guerre, les privatisations, la liquidation des services publics, les attaques contre les retraites, la sécu, les chômeurs, les salariés. Et plus récemment, c'est la loi travail, et puis Parcoursup qui éjecte du système universitaire des milliers de jeunes chaque année, et ça c'est l'œuvre de Macron. Alors Branco montre bien que depuis qu'il est au pouvoir, il pille les biens et l'argent public pour le donner à ses alliés oligarques. Et toutes ces mesures de casse sociale du début du quinquennat sont listées dans « Le président des ultra-riches » des Pinson-Charlot. Par ailleurs, il n'a pas fallu attendre l'extrême droite pour avoir l'état d'urgence, pour avoir la réduction des libertés, ce qu'on a vu très récemment aussi, la répression violente et spectaculaire du mouvement des Gilets jaunes, la désinformation et une manipulation médiatique totale. Et tout ça a peu à envier à un pouvoir fascisant. Bégodeau montre très bien que le bourgeois libéral, donc macronien, voire dit de gauche, par peur et par intérêt, n'arrive pas à dépasser le stade infantile de la politique et de la pensée. Il vit dans un monde de méchants et de gentils, il ramène tout aux individus, il ignore les structures et s'en tient à un discours moral. Il défend et assène ses valeurs sans les analyser, sans les argumenter. Alors, par exemple, l'injonction à voter, il méprise les catégories populaires qui s'abstiennent en masse. Et Bégodeau pense que la politique a lieu partout, sauf lors des élections, où on s'isole au lieu de rencontrer, au lieu de créer des amitiés. L'alternative lors du vote est très restreinte. Et l'élection au suffrage universel, il faut rappeler, le système représentatif tel qu'il existe, ont été créés par la bourgeoisie au pouvoir. Et pour la bourgeoisie au pouvoir, ils lui servent à se maintenir au pouvoir, à se légitimer. Et c'est donc une machine à créer de la déception. Tout est joué d'avance pour faire gagner des partis bourgeois. Le situationniste Sergio Girardi, dans « Nous n'avons pas peur des ruines », assimile le bulletin de vote à la croix de l'analphabète. Il rappelle que toute inscription manuscrite sur un bulletin est qualifiée de vote nul. Donc l'élection, c'est le degré zéro de la liberté d'expression et de la politique. Et Bégaudeau le rejoint là-dessus. François Bégaudeau dit que cette bêtise de la bourgeoisie se traduit aussi dans sa novlangue, c'est-à-dire une langue pleine d'euphémismes et de mots vidés de leur sens. Macron a osé écrire un livre intitulé « Révolution ». L'aspiration à l'égalité sociale est devenue un conservatisme, et inversement, le progressisme est devenu la défense de l'extension des inégalités. Les progressistes d'aujourd'hui suppriment l'ISF, s'attaquent aux salariés, suppriment des droits au chômage. Et cette novlangue est très présente dans les discours de Macron. Mais déjà en 1988, Guy Debord notait que la conversation était presque morte et que bientôt le seraient beaucoup de ceux qui savaient parler. Juan Branco rappelle, lui, que c'est aussi le programme électoral de Macron qui était vide de contenu. Cette campagne a été menée à la hâte et il a juste profité de la brèche laissée par l'effondrement du Parti Socialiste, dont il a récupéré les voix.
Économique, c'est ça mon programme politique. Ni élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. Nous serons servis entre bourgeois, riches et les riches, on est comme ça. Maintenant je suis ton président, président, président. Oui du con, oui du blanc, oui du blanc, oui du blanc. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Où tu finiras en mitard, une matraque en suppositoire. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. J'encule les petits, on va t'offrir une vie d'enfer. Toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon, mitard, la France insoumise au placard. On m'appelle Macron le banquier, ma devise c'est VTC. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, car je t'envoie les serres. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Marche ou crève. La France en marche, marche ou crève. Marche ou crève, marche ou crève.
La bourgeoisie, dont la dissimulation de ses actes et de ses pratiques est une des caractéristiques majeures, complote. Alors, François Bégaudeau, dans Histoire de ta bêtise, montre que le complotisme a été installé au cœur des débats par la bourgeoisie. Et dès qu'on tente de mettre une version officielle en cause, on est accusé de complotisme. Frédéric Lordon a écrit d'excellents articles dans Le Monde diplomatique qui sont accessibles en ligne. En particulier, en octobre 2017, il a écrit un article intitulé « Le complotisme de l'anticomplotisme ». Alors, il y montre que la pensée du complot est inévitable, puisque la population est dépossédée de tout accès à la vérité. Il montre aussi que s'il est absurde de voir du complot partout, il est tout aussi absurde de n'en voir nulle part. La bourgeoisie au pouvoir est bien productrice d'idéologie, et même à l'origine de fake news. En janvier, Macron a bien déclaré que les Gilets jaunes étaient pilotés par Moscou, et plus récemment, on a eu un mensonge d'État sur les faits qui se sont déroulés à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris le 1er mai. Juan Branco montre les liens de népotisme, donc la tendance à accorder des faveurs à ses proches, et de corruption, dont il a été directement témoin. Il parle des liens d'amitié entre oligarques et pouvoirs politiques, même si là, on pourrait mettre des guillemets autour du mot « amitié », puisqu'il s'agit davantage de collaboration, de cooptation, de capacité à servir et se laisser servir. On échange, par exemple, de l'argent contre de la légitimité. Il montre que l'arrivée au pouvoir de Macron résulte, elle aussi, d'un complot, c'est-à-dire d'une stratégie qui a été cachée au public, que l'élection présidentielle n'a fait que valider. En 2014, alors que Macron était encore totalement inconnu du grand public, Juan Branco s'est retrouvé en dîner ou en déjeuner avec le milliardaire Xavier Niel, qui lui a annoncé que Macron serait président de la République. Aussi, le couple Macron a été placé au pouvoir plus qu'il n'a été élu. Alors, par qui a-t-il été placé au pouvoir ? D'abord par des milliardaires. Bernard Arnault, première fortune de France, quatrième fortune mondiale, patron de LVMH. Xavier Niel, dixième fortune de France, patron de Free, propriétaire du Monde. Ou encore Arnaud Lagardère, patron d'Europe 1. Il a aussi été placé au pouvoir par des hommes et des femmes d'affaires, des hauts fonctionnaires qui agissent dans l'ombre de ces très grandes fortunes et qui servent d'exécutants et de relais entre les politiques et les oligarques. Il cite les noms de Michel Marchand, de Jean-Pierre Jouyet, des noms qui ne sont pas très connus du grand public, mais qui sont présents quand même depuis les années 80-90. Et puis il a été placé au pouvoir par les médias qui appartiennent aux oligarques. Un article vient de sortir donc lundi 24 juin, sur le site Acrimed, qui rappelle 2 ans après comment Macron a été porté au pouvoir par la presse. Certains journalistes ont appelé explicitement à voter Macron, dans l'Express, Libération, sur France Inter, à Mediapart. Et Juan Branco montre de manière efficace et détaillée comment les oligarques tiennent ces médias. Alors ces analyses, elles viennent compléter un film indispensable, incontournable, sorti en 2012, Les Nouveaux Chiens de Garde. Actuellement, 90% des organes de presse sont détenus par une dizaine de milliardaires. Et les autres médias, les médias publics, sont dirigés par des personnalités désignées par le pouvoir. Ils ne sont pas beaucoup moins indépendants. Parmi les grands médias, seul le monde diplomatique échappe aujourd'hui à l'emprise de l'oligarchie. Et cette emprise explique en partie pourquoi les journalistes des médias mainstream ne font plus leur travail, ils n'enquêtent plus, mais ils se contentent de relayer les discours du pouvoir. Les médias ont porté au pouvoir Macron. Ils ont fabriqué le candidat, ils lui ont inventé du génie, des talents. Et ils ont fait un matraquage sans précédent. En effet, il y a eu un nombre démentiel de unes et d'articles consacrés à Macron dans l'Obs, Le Monde, L'Express, Le Point, entre 2015 et 2017. Ce contrôle sur les médias est décisif. Il donne aux élites au pouvoir une prise directe sur la vérité, un monopole de la vérité. Et ce sont elles qui nous disent et nous dictent le monde à longueur de journée, par exemple sur les chaînes d'information. Machiavel écrivait « Gouverner, c'est mettre vos sujets hors d'état de vous nuire et même d'y penser ». C'est là le rôle des médias aujourd'hui. Mais un des effets du mouvement des Gilets jaunes, c'est que de nombreuses personnes ne sont plus dupes de ça et se sont rendues compte que de la propagande et de la manipulation de masse. Branco montre bien que le complot a 2 versants. D'une part, c'est des hommes politiques qui sont portés au pouvoir par les grandes fortunes, donc chose dont j'ai déjà parlé précédemment. Et inversement, c'est aussi des grandes fortunes qui se constituent avec l'aide du pouvoir et de l'État. On peut prendre un exemple, c'est Bernard Arnault, qui a pu constituer sa fortune de 80 milliards parce qu'il a bénéficié d'une faveur de Fabius dans les années 80, qui lui a permis de racheter l'entreprise Boussac. Il a obtenu des emprunts publics de l'État, il a obtenu la mobilisation d'entreprises publiques et il a obtenu un effacement de dette. Et toutes ces faveurs lui ont permis d'acheter des médias, de licencier abondamment et de se faire connaître, de se lier aux différents présidents de la République. Il faut voir sur Bernard Arnault le film « Merci patron » de François Ruffin. Comme on pouvait s'y attendre, et je terminerai par ça, Crépuscule et Histoire de ta bêtise ont subi des attaques. D'abord, le livre de Bégodeau a posé problème à un certain nombre de bourgeois qui se sont sans doute reconnus dans le « tu » à qui il s'adresse. Et une semaine après la publication du livre, le 1er février 2019, il a été viré de la revue Transfuge par Vincent Jory, alors qu'il y avait participé pendant 15 ans. Et c'est une conséquence directe de la publication de son livre. Alors évidemment, Vincent Jory l'a traité d'antisémite. Pour Branco, on peut même parler d'un lynchage groupé. Alors François Bégodeau fait partie de ses défenseurs. Le lynchage commence avec la députée En Marche, Aurore Berger, qui a accusé le livre d'armer les esprits. Ce n'est pas très malin de sa part, parce que du coup, elle en a fait la promotion, parce que c'est à juste titre qu'elle a accusé ce livre d'armer les esprits. Sans surprise, des journaux comme L'Express, Slate, se sont empressés d'écrire des articles mensongers sur Juan Branco, et même Mediapart. site censé être à la pointe de l'opposition politique, est lui aussi rentré dans le jeu du lynchage médiatique. On a eu deux articles publiés sur Mediapart. Alors, un premier sur le club de Mediapart, Geoffroy de Léganerie, et un deuxième de Joseph Confavreux sur le journal Mediapart. Ces deux articles comportent des argumentaires peu solides, puisqu'ils préfèrent s'attaquer à l'ego de l'auteur qu'il considère surdimensionné, plutôt qu'au contenu du livre. Pourquoi cette attaque ? Parce que Crépuscule révèle que le milliardaire Xavier Niel a toujours des participations dans Mediapart, que ce n'est donc pas un média si à part que ça. D'ailleurs, ce site a participé à promouvoir Macron lors de la campagne présidentielle en l'accueillant sur son plateau. On a même vu certains, sur des médias censés porter la révolte, comme le très bon site Rébellion, délirer et accuser Branco de connivence avec l'extrême droite et d'homophobie, dans un article complètement à côté de la plaque et ridicule. Quand on lit son livre et qu'on écoute les interviews de Branco, on ne relève aucune ambiguïté de ce type dans sa pensée politique. Alors pour revenir à cette critique sur l'ego, alors Bégodeau l'a subi aussi parfois. On entend parfois des gens dire que Bégodeau a un ego surdimensionné. En fait, les ouvrages de Branco et de Bégodeau leur confèrent une vraie supériorité intellectuelle sur leurs contradicteurs. Leurs contradicteurs des stations radio, des plateaux télé. François Bégodeau effectue une analyse d'une très grande rigueur intellectuelle de la pensée bourgeoise et de la pensée critique. Et Juan Branco, lui, fait une description fine d'une grande puissance factuelle des mécanismes de corruption du pouvoir. Et c'est assez émouvant de voir les tentatives de psychologiser les auteurs en leur prêtant un ego surdimensionné. Ça rappelle un peu, d'ailleurs, les critiques adressées à Mélenchon, qui est souvent attaqué que sur son côté prétendument colérique. Sans doute faute d'arguments. Mais bon, il est effectivement douloureux d'être médiocre. Ces attaques ne font qu'inciter à les lire, en fait. Il faut lire ces deux bouquins, Crépuscule et Histoire de ta bêtise, et regarder les multiples vidéos d'interviews de leurs auteurs qu'on trouve facilement sur Internet. Regardez Branco éclaire son livre, puisqu'il y épose des situations parfois complexes, et ça ôte tout doute sur sa pensée politique. Et on a beaucoup à apprendre à regarder Bégodeau taillé en pièces, ceux qui tentent de l'attaquer. Et c'est aussi un régal de regarder ces vidéos parce qu'il recourt souvent à une ironie très efficace et qu'il est théoriquement très solide, contrairement à ses contradicteurs, ce qui fait ressortir la bêtise de ces derniers. On va terminer avec une petite berceuse de Didier Super qui s'intitule « Les gilets jaunes, j'en ai rien à foutre ».
Quand les vieux se font matraquer, vu qu'ils sont plus mous, peut-être ils ont moins mal, mais j'en ai rien à foutre. Les gars qui se retrouvent en tôle aussi vite qu'un tir de flashball, j'en ai rien à foutre. Les politiques arvéreux qui n'iront jamais en tôle, mais non mais eux c'est pas pareil, mais j'en ai rien à foutre. Les foulards rouges sont tellement cons, on a tous cru que c'était de l'humour, j'en ai rien à foutre. Par contre, mes achats de Noël aux Champs-Élysées cette année, c'était compliqué. Ça fait chier. Pile à un an de la mort de Johnny, du coup, ils en ont presque pas parlé. Ça aussi, ça fait chier. Quand les gens, ils disent au gouvernement qu'ils ont la dalle, le gouvernement, il répond, ok, d'accord, on a entendu. On va rétablir les 90 km/h. J'en ai rien à foutre. Et ceux qui sont pas contents, ils peuvent aller se faire cuire un œil. J'en ai rien à foutre. Leur grand débat de mes couilles, qu'en fait c'est juste pour se faire un petit peu de pub. Rien à foutre. On comprend mieux pourquoi en 2017, leur programme il avait l'air un petit peu flou. J'en ai rien à foutre. Y'a eu plein de morts, plein de blessés graves, plein de mutilés à vie. Et le gasoil y'a même pas baissé de 10 centimes. Ça fait chier. Le seul truc bien c'était les péages gratuits, mais maintenant c'est fini. Ça aussi ça fait chier. Pour que les manifs finissent à l'heure, les flics se déguisent en casseurs, mais j'en ai rien à foutre. Et ça BFM ils ont pas l'air d'être au courant, alors que putain c'est quand même des journalistes professionnels. J'en ai rien à foutre. À chaque fois que les gens ils ont l'air de se calmer, l'autre il trouve toujours une nouvelle connerie à dire pour les énerver. J'en ai rien à foutre. Faut uniquement boxer des pauvres pour mériter sa petite médaille. J'en ai rien à foutre. Pour éviter les dictatures faut toujours des révolutions. Ça fait chier. Parce qu'après chaque révolution, c'est 50 ans de dictature. Et ça, franchement, c'est chiant.
C'était donc un morceau de Didier Super, Les Gilets jaunes, j'en ai rien à foutre. Merci Tiphaine pour ces conseils de lecture pour l'été. Ça fait de quoi lire au moins pour le mois de juillet, et avec toutes les références que tu as citées dans au cours de l'émission, et à de quoi lire pendant bien le mois d'août et pour la rentrée. Donc merci beaucoup d'être venu finir en beauté cette deuxième saison de Qui ou quoi sur Radio Dio.
Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation.
J'espère que tu reviendras pour la saison 3.
Enfin, avec plaisir aussi.
On s'organisera pour ça. En attendant, je vais lancer le générique de fin. La musique du générique. En attendant, nous, donc, on arrête là pour cette année et on se retrouvera sur l'antenne de Radio Dio à la rentrée après les vacances, la semaine de la reprise des cours, en fait, comme on se cale sur les vacances scolaires à qui ou quoi. La semaine prochaine, il y a sûrement encore une émission de Radio Gaga, sûrement aussi une émission de Ghetto Vibes, mais là, aujourd'hui, il n'était pas là. Cet été, bon, je prends les devants, mais cet été, il y a deux soirées Radio Dio organisées au Parc de la Mine, au Puy Courriot, sur la Guinguette. Une le 27 juillet et une en août, dont je n'ai oublié la date. Soyez-y, ce sera très très bien. Ce sera des diophonies qui vont être vraiment très très bien. Nous, ben, ou vous lisez les livres dont on a parlé, ou vous en lisez d'autres, et puis on verra bien de quoi on parlera l'année prochaine. En attendant, c'était un plaisir d'être sur la radio. Encore merci Tiphaine.
Merci à toi.
Et puis, à bientôt. Daytona, and I heard Joshua say.